Faso IAFA, un programme de Studio IAFA.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver dans votre émission humanitaire Faso IAFA du studio IAFA. Cette semaine, nous vous amenons à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso où deux personnes de cœur, Sandrine Nama et Oumar Warma, tendent la main aux enfants vivant dans la rue. Abandonnés par les siens, pour la plupart, ces enfants trouvent auprès d'eux un refuge. Momo et Nafou ensemble nous rappellent que parfois, il suffit d'un geste simple, un sourire, un repas, une écoute pour redonner un peu de dignité à ceux qu'on ignore. Un échange touchant et éducatif entre nos deux amis. Et dans le Kibar utile de cette semaine, zoom sur une structure engagée, le SAMU Social Burkina, qui agit depuis plus de 20 ans contre l'exclusion sociale. Comment aide-t-elle les enfants dans la rue à se reconstruire et retrouver une place dans la société? La réponse à cette question dans un instant. Dédé Kora, l'amoureux de la Kora et fils de Griot, assurera la musique live. Voilà entre autres les sujets qui seront développés au cours de ce 162e numéro de Faso IAFA. Restez avec nous, je suis Aimé Roland Ouedraogo, le Aimé des Aimés. À Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, Sandrine Nama et Oumar Warma entretiennent des relations particulières avec des enfants en situation de rue ou de mendicité. Ils se sont donnés pour mission d'offrir à ces enfants, très souvent rejetés, les chances d'un avenir hors de la rue. Ils nous racontent leur histoire dans un reportage de Micheline Guigma et Mamou Ouedraogo, notre correspondante de Bobo-Dioulasso.
Je sortais du restaurant et il était environ 23h ou 23h passées. Et alors que je m'apprêtais à partir, je vois des tout petits enfants qui s'approchent de moi. Ils viennent faire le monde, quoi, demander. Je les regarde. Ce qui m'a choqué, c'est qu'ils étaient trop petits pour être dehors.
Sandrine Nama, musicienne, activiste engagée et entrepreneur, venait ainsi de faire une rencontre qui allait changer sa vision de la vie.
Moi, au lieu d'écouter ce qu'ils me demandaient, je disais, mais vous faites quoi dehors? Ils ont commencé à me raconter plein d'histoires. Et au lieu de rentrer dans la voiture, je me suis assis. J'ai dit, venez me dire, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes dehors?
Après cette première rencontre, il y en aura d'autres et elle finira par comprendre que ses nouveaux amis sont en réalité des enfants en situation de rue abandonnés à eux-mêmes. Et c'est en ce moment que commence réellement leur histoire, raconte la jeune femme.
Et après ça, en fait, ce qui s'est passé, c'est que naturellement, dans la semaine, j'avais 3 jours où je faisais la cuisine, je faisais des kits. Au début, c'était une quarantaine, après c'est devenu beaucoup plus, une centaine et tout, des kits de repas que je venais leur donner. Ça pouvait être lundi, mercredi et samedi, en tout cas un jour où je pouvais m'asseoir avec eux et puis discuter. En fait, l'idée pour moi, c'est d'abord de leur offrir ce que tous les enfants, ce dont tous les enfants ont besoin. Cette oreille attentive déjà pour vous écouter.
À des kilomètres de la capitale burkinabé, précisément à Bobo-Dioulasso, Oumar Warma discute joyeusement avec ses hôtes venus partager un repas avec lui. L'artiste peintre explique avoir pris l'habitude depuis de nombreuses années de partager des repas avec les enfants mendiants, couramment appelés garibous.
Cette idée, c'est depuis petit que j'ai pris cette habitude parce que les mendiants venaient mendier à la maison et que moi j'étais petit. Moi, je sortais moi-même avec la nourriture. Au lieu de les donner, je les invitais à ce qu'on mange ensemble. Et tout est parti de là. Parce que j'ai vu que les autres les rejettent et moi je trouve que nous sommes les mêmes. C'est les enfants comme les autres. Donc c'est pourquoi moi je dis qu'il ne faudrait pas qu'on mette une différence entre ces enfants et nos autres enfants.
Oumar Warma ne se limite pas à partager des repas avec ses amis. Il les prépare à être autonomes en les initiant à certains métiers.
J'ai eu à réaliser pas mal d'eux parce que ça fait bientôt 4 ans que moi je les apprends à faire la peinture et nous faisons beaucoup, beaucoup d'ateliers de création. Mon objectif, c'est de pouvoir créer un jour un centre pour pouvoir faire venir encore le plus d'enfants mendiants vers moi. En créant ce centre-là, je vais aussi créer d'autres activités comme la peinture, la poterie, le bronze, pour que ces enfants puissent apprendre quelque chose de leurs 10 doigts.
De son côté également, Sandrine Nama se rappelle s'être engagée aux côtés des services sociaux pour retirer ses amis de la rue. Un processus fastidieux, explique-t-elle.
Quand tu veux les sortir, tu vérifies déjà, même quand tu vas les mettre dans un centre d'accompagnement. Les centres d'accompagnement accompagnent par exemple 1, 2, 3, 4 ans maxi. Après, où est-ce qu'il va? parce que tu vas pas le ressortir pour le remettre dans la rue. Moi, il m'est arrivé d'héberger plus d'un mois des enfants et tout, de les placer dans des centres. Il m'est même arrivé de reconstruire la maison d'un des parents qu'on a trouvé. Et donc, pour moi, l'enfant se retrouvait dans la rue. Donc, il fallait courir, aller aider le parent. Il y a des parents à qui j'ai reconfié leur enfant après cette période de stabilisation. Il y a un papa, étrangement, une semaine avant son décès, qui est venu me voir et m'a dit « Ah, tu sais, cet enfant, c'est nous, on l'a mis au monde, mais c'est ton enfant. »
Des enfants que la vie lui a confiés et dont elle se dit fière aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont réussi à s'en sortir. Ils sont installés à leur propre compte, sont mariés ou pères de famille et d'autres diplômés.
Ils m'ont promis qu'un jour, ils vont m'inviter, pour certains ceux qui étaient là-bas, parce qu'après j'ai découvert dans d'autres sites, ceux qui étaient devant le restaurant, leur défi, en fait leur challenge, je ne sais pas comment on dirait ça, ils ont dit qu'ils voudraient m'inviter dans le restaurant où je les ai rencontrés. Un jour, ils seront assis à la table avec moi et ils vont payer la note pour moi.
En attendant ce grand rendez-vous avec ses enfants devenus des hommes, Sandrine Nama s'est donné une nouvelle mission, celle d'accompagner d'autres enfants. Pour elle, tout comme pour Oumar Warman, c'est un devoir de donner une chance de réussite à ses enfants qui, pour de nombreuses raisons, se retrouvent loin de la chaleur d'un foyer.
La fille qui barre.
Les enfants vivant dans la rue sont souvent oubliés par les politiques de santé publique. Pourtant, ils sont parmi les plus exposés aux maladies, au manque d'hygiène et à l'absence de soins de base. Docteur, bonsoir et bienvenue.
Merci.
Comment vous allez?
Ça va bien, vous?
Bien également, merci.
D'accord.
Docteur, quels sont les problèmes de santé les plus fréquents chez les enfants vivant dans la rue?
C'est vraiment un fléau qui est rencontré partout en Afrique, et au Burkina aussi il y en a suffisamment. Et les problèmes de santé, et il y en a beaucoup. Premièrement, on peut citer les questions de malnutrition et d'insécurité alimentaire, parce que ces enfants dans la rue ont un accès limité à une alimentation saine et équilibrée, et donc ça cause des problèmes de santé. Et deuxièmement, vous avez des problèmes de santé physique, parce que ce sont des enfants qui sont exposés aux maladies respiratoires telles que l'asthme, la tuberculose, les infections dermatologiques et ainsi de suite. Et les questions de poux, la gale, c'est vrai que ce sont des maladies qui ont reculé, mais c'est toujours fréquent. Peut-être les maladies de santé mentale. Ces enfants dans la rue sont exposés à des questions de dépression, de stress, d'anxiété, tout ça. Et pour terminer, ces enfants sont exposés aux maladies sexuellement transmissibles, telles que le VIH et les hépatites.
Quelles mesures sanitaires de base peuvent être mises en place pour les protéger?
Premièrement, je pense qu'il faut assurer un accès à l'eau potable et aux installations sanitaires pour ces personnes-là. Et puis, si on a la capacité d'assurer une alimentation équilibrée à ses enfants, ça va résoudre les questions d'insécurité alimentaire et puis garantir aussi des soins médicaux de base. Si on peut offrir des consultations médicales à ses enfants, les assurer un accès équitable aux installations sanitaires, ça va vraiment aider.
Justement, comment le système de santé peut-il mieux les prendre en charge malgré leur situation?
Nous avons la chance qu'on a pas mal de structures de santé qui sont publics ou privés. On peut aussi utiliser les structures de santé qui sont plus ou moins mobiles pour aller vers ces enfants et les prendre en charge. Aussi, former le personnel de santé, les sensibiliser à la prise en charge de ces enfants de façon spécifique, parce qu'ils ont aussi des besoins spécifiques. Souvent, il faut établir des relations avec les associations, les ONG sur le terrain, qui peuvent permettre d'aller prendre en charge ces enfants-là gratuitement sans problème.
Existe-t-il des programmes spécifiques de vaccination ou de soins à leur intention?
Ça existe, mais c'est beaucoup plus mis en œuvre par les associations et les ONG. Voilà. Donc du coup, ces structures-là font souvent des sorties, des sensibilisations avec du matériel qu'ils en possèdent, mais ça nécessite quand même une implication des acteurs gouvernementaux, des structures de santé, du personnel, de l'État.
Et justement, parlant de l'implication, comment les ONG ou les citoyens peuvent-ils contribuer à améliorer leur santé au quotidien?
Les citoyens, les ONG peuvent contribuer en fournissant des ressources matérielles, notamment des habits, de la nourriture, des produits d'hygiène à ces enfants, en les offrant aussi un soutien psychologique. Il faut peut-être les encadrer et plaider au niveau des politiques pour vraiment prendre en charge ces enfants-là dans un cadre beaucoup plus sécurisé. Si nous avons un centre, on peut les prendre dans ces centres-là, les donner un accès plus sûr à la santé et peut-être les encadrer sur le plan psychologique et peut-être aussi trouver un moyen de leur épanouissement dans la société en leur donnant de quoi faire pour préparer leur avenir.
Merci beaucoup, docteur, pour vos conseils et informations.
Merci à vous.
Merci.
Kibar utile.
Le SAMU social burkinin fait partie de ces ONG et associations qui viennent en aide à ces enfants abandonnés. Créé en 2002, le SAMU social œuvre contre l'exclusion sociale. Il accompagne dans ce sens les enfants en situation de rue à retrouver une place dans la société à travers plusieurs activités. Adolphe Raoul Paré, directeur des opérations du SAMU social burkinin, donne plus de précisions au micro de Micheline Yigma.
Bonjour monsieur.
Bonjour madame.
C'est quoi le SAMU social Burkina Faso?
Le SAMU social Burkina Faso est une association de droit burkinabé qui intervient dans la lutte contre l'exclusion sociale, spécifiquement ici au Burkina, donc dans la lutte contre l'exclusion sociale des enfants et des jeunes en situation de rue.
Concrètement, comment est-ce que vous accompagnez ces enfants en situation de rue?
Alors concrètement, on va dire il y a des actions de prise en charge déjà de la problématique en temps réel, mais aussi il y a des actions de prévention de cette problématique-là qui sont menées. Donc la prise en charge directe, on va dire, c'est l'intervention directe sur les sites de vie des enfants à travers ce que nous avons appelé les équipes mobiles d'aide qui se déploient 5 fois par semaine auprès des enfants dans leur lieu de vie la nuit et qui a pour mission essentielle de recréer du lien social, d'offrir des services aussi bien sur le niveau médical que social, d'accompagner et d'orienter les enfants vers les structures qui sont en charge de leur prise en charge. Nous avons un centre où nous accueillons les enfants à travers les accueils de jour ou l'hébergement d'urgence, mais essentiellement l'idée étant de procéder par petites touches et le centre propose un certain nombre d'activités, que ce soit des activités socio-éducatives, des activités ludiques, sportives, etc. L'idée étant d'accompagner les enfants vers une sortie de rue durable. Pour ce qui est des activités préventives, nous avons les permanences sociales et médicales que nous organisons. On va dire sur 6 sites actuellement dans les quartiers périphériques de la ville de Ouagadougou. C'est Zongo, c'est Pazani. Zongo, il y en a 2 sites. C'est Pazani, c'est Wobregré, Rimkieta, Yagma, où une équipe mobile d'aide aussi se déploie 1 fois par semaine pour apporter du soin, mais accompagner aussi les personnes déplacées internes, les communautés hôtes, de façon générale les personnes vulnérables, les communautés et les familles vulnérables dans ces zones-là. L'idée étant de faire en sorte de renforcer ces familles et éviter, on va dire, de renforcer leur résilience, de renforcer les familles, leur capacité de contenance et faire en sorte qu'elles évitent d'envoyer ou d'avoir des enfants qui se retrouvent en rue pour des nécessités, on va dire, économiques, mais qui vont déboucher rapidement sur des situations d'exclusion sociale.
Est-ce qu'il y a des cas de réinsertion réussie?
Ouh, il y a beaucoup de cas de réinsertion réussie. Hein. Je crois que si je regarde nos statistiques, nous avons sur 2024 50 enfants et jeunes qui ont été accompagnés, une bonne dizaine, 13 autres qui ont été orientés dans des structures partenaires, placés donc dans des centres où ils sont rescolarisés ou font suivre une formation professionnelle, etc. Mais en gros, on va dire que c'est 60 d'enfants comme ça chaque année que nous réussissons directement à nous, en tant que SAMU social, à sortir de la rue de façon durable. Il y a beaucoup d'autres enfants, on va dire, qui ne sont pas directement pris en charge par nous, mais qui sont accompagnés. Quand on parle des personnes déplacées internes, c'est pratiquement 150 personnes que nous avons pu former et installer l'année passée. Que ce soit des jeunes, des filles, des garçons ou des moins jeunes, des adultes, moins. Mais voilà. Donc voilà, les enfants sortent de la rue graduellement. C'est un processus. Un processus qui peut par exemple passer par plusieurs hébergements, plusieurs orientations, des allers-retours entre la rue, le centre, etc. Mais c'est des processus que nous mettons en œuvre et que nous accompagnons sans jamais abandonner. En se disant que c'est peut-être la troisième intervention que le déclic va se passer au niveau de l'enfant, au niveau de la famille, où qu'on va trouver la vraie porte d'entrée pour pouvoir régler et remédier à la situation. Bon, malheureusement aussi, on va dire, il y a des situations qui n'aboutissent pas immédiatement, mais on n'abandonne pas, on continue, on avance avec les enfants.
Vous avez des équipes mobiles qui vont vers les enfants, mais est-ce qu'il y a la possibilité que les enfants viennent vers vous?
Le centre, il est ouvert. Nous avons donc le centre qui est là, où nous organisons, on va dire, 2 grosses activités par semaine, l'accueil de jour où ils viennent, ils lavent leurs vêtements, ils se reposent, ils participent aux activités, ils suivent, les traitements, la convalescence, etc. Donc les lundis et les mercredis dans la matinée. Mais le centre est ouvert H24. C'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, en fonction des situations, un enfant peut venir, il y aura toujours quelqu'un du personnel social, il y a toujours quelqu'un du personnel médical qui est là pour répondre aux sollicitations des différents bénéficiaires, que ce soit sur des urgences ou que ce soit sur des rendez-vous. Les enfants viennent. Là, dans la journée, le centre est ouvert.
Pour signaler des cas d'enfants qu'on retrouve en situation de rue ou qu'on croit être en situation de rue, est-ce qu'il y a un numéro où on peut vous joindre?
Nous sommes là, mais nous sommes des éléments d'un dispositif beaucoup plus global. Donc, on va dire un filet de prise en charge, un filet de protection de l'enfant de façon plus globale. Au niveau du Burkina Faso, il y a un numéro vert qui existe, c'est le 115. Pour tout ce qui est violence faite aux enfants, pour tout ce qui est signalement de problématiques liées à la protection de l'enfant, le 115, il est opérationnel, c'est au niveau national, donc on peut appeler.
Merci.
Merci.
Momo et Nafou.
Retrouvons à présent nos deux comiques dans un autre registre, mais avec le même esprit de solidarité. Momo se moque d'un jeune qui mange avec les mendiants. Nafou lui explique que ce geste simple redonne dignité à ceux qu'on ignore. Elle propose d'autres façons d'être solidaire. Écouter, offrir un repas, un sourire, un vêtement. Momo prend conscience de sa chance et veut agir. On les écoute.
Bonjour Nafou.
Momo, bonjour.
Nafou.
Oui.
Tu as vu ce gars de Bobo là? Il s'assoit tous les midis avec les mendiants pour manger. Il n'a même pas honte.
Momo, ce que tu vois comme de la honte, moi j'appelle ça du courage et de l'humanité. Ce jeune homme là, il donne une vraie leçon à toute la ville.
Quoi? Mais pourquoi il ferait ça? Il n'a pas de famille pour manger avec ou quoi? Ou bien il veut faire son intéressant pour passer à la télé ou à la radio?
Non, Momo. Il ne cherche pas la gloire. Il cherche à créer un lien. Il a compris que les mendiants, les sans-abri, ce sont aussi des êtres humains. Il mange avec eux pour leur dire « Je vous vois, vous comptez, vous n'êtes pas seul. »
Bon, c'est touchant quand tu le dis comme ça, mais manger seulement avec eux, ça suffit? Moi aussi, je peux leur donner, même si c'est deux beignets, non?
C'est déjà un bon début, Momo. Mais il y a d'autres façons d'être solidaire.
Oui, je comprends. Mais dis-moi comment faire. Je veux savoir, Nafou, s'il te plaît.
Momo, pour manifester sa solidarité envers les personnes vulnérables, on a plusieurs possibilités. On peut leur parler avec respect, leur demander leur prénom, leur donner un vêtement propre, leur offrir du savon ou une couverture. Ou juste les écouter, Momo. C'est suffisant.
Écoutez, moi j'écoute la radio, hein. Et ces gens-là, ils ont quoi à raconter?
Momo, tu serais surpris. Certains ont été enseignants, commerçants, artistes. La vie ne les a pas épargnés. Un incendie, une maladie, une guerre, et hop, tout bascule. Ça pourrait arriver à n'importe qui, même à toi, Momo.
À moi? Jamais, jamais.
Et si un jour tu tombais malade? Si tu perdais tout, tu ne voudrais pas qu'un inconnu te tende la main? Juste pour te rappeler que tu existes.
Tu as raison. Je ris souvent des pauvres, mais au fond de moi, je sais que j'ai peur d'en devenir un jour.
Alors, transforme ta peur en action, Momo. Fais partie de ceux qui aident, pas de ceux qui regardent de haut. Parle avec eux. Regarde-les avec respect. Parle-leur avec des mots gentils, Momo.
Écoute, oui. Nafou, à partir de maintenant, j'arrête les moqueries.
Merci.
Je vais garder une partie de mon déjeuner pour celui qui n'a rien. Et demain, je vais lui demander son nom.
Voilà l'esprit, Momo. La solidarité, c'est ce qui fait de nous des êtres humains et non des animaux.
Tout à fait.
Donc, pense-y, Momo.
à la découverte de ma localité d'accueil.
Direction le centre Sainte-Maria-Goretti, situé dans la ville de Kaya, dans la région du Saint-Nom. Ce centre accueille les jeunes filles victimes de mariages forcés et ou précoces. À la découverte du centre Sainte-Maria-Goretti avec Nelly Tapsoba.
Bonjour.
Oui, bonjour, madame. Je m'appelle Sœur Nadège Zungrana. Je suis au foyer Sainte-Maria-Goretti.
Alors, parlez-nous du centre.
L'origine du centre, ça vient du charisme des Sœurs de l'Immaculée Conception de Ouagadougou. Et dans ce centre, nous accueillons les filles victimes du mariage forcé et ou précoce. Et celui qui a été à l'origine de fonder notre congrégation a voulu sauver la jeune fille au temps de Haute Volta. La jeune fille était considérée comme un objet. Et quand elles nous viennent toutes démunies. Et c'est à nous, voilà, de leur venir en aide.
Alors au jour d'aujourd'hui, combien de pensionnaires avez-vous dans le centre?
Actuellement, nous avons à peu près une 80-90 filles. Quand les filles nous arrivent, on essaie de ne pas les laisser mais vides, puisqu'on se dit les laisser sans rien faire, ça va augmenter leur stress. Dans le futur, elles ne pourront pas se débrouiller. Et on sait que notre monde, il faut se battre. Donc quand elles arrivent, on permet à chacune de choisir le métier qui l'intéresse. Si la personne veut continuer l'école, voilà, on essaie de les remettre à l'école. Et celles qui n'ont pas encore fait l'école, on leur donne la chance de faire cours du soir et puis des séances d'alphabétisation.
Merci ma sœur. Alors, est-ce qu'on peut aller un peu à la découverte du centre maintenant? Ici, nous sommes où?
Ici, nous sommes à l'atelier de tissage Sainte-Maria-Goretti. Et dans cet atelier, nous avons au moins 8 de nos filles qui apprennent à tisser. Elles font de très beaux pailles et les gens viennent payer et on les félicite. Ici, nous sommes à l'atelier de couture Sainte-Maria-Goretti. Et là, nous accueillons les filles qui ne sont pas allées loin à l'école. Donc, on les accueille et avec l'aide d'une tantie, elles arrivent à coudre. Voilà. Et il y a d'autres filles qui sont avec elles pour apprendre à coudre.
Merci. Donc, je vais parler avec madame. Bonjour.
Bonjour.
Vous pouvez vous présenter?
Je m'appelle Boro Fatoumata, formatrice en coupe couture dans le centre Sainte-Maria-Goretti.
Alors, comment ça se passe ici avec les filles?
Bon, avec les filles, bon, on se débrouille. Comme elles n'ont pas été à l'école, c'est un peu difficile. Donc, on apprend à mourir, plus le français ajouté.
Ok, merci beaucoup. Épouser un inconnu sans l'aimer.
Trop d'âmes ont fini prisonniers.
Ça fait combien de temps que tu apprends la couture au centre?
Ça fait 3 ans. Cette année que je compose le CQP.
Mais cette formation t'est-elle bénéfique?
Ça m'est vraiment bénéfique parce que je sais maintenant coudre, je maîtrise la couture, je suis vraiment contente.
Donc aujourd'hui, peu importe le modèle, tu maîtrises?
Je crois, ce n'est pas tous les modèles, parce qu'il y a des modèles compliqués. Mais les modèles simples, je peux les faire et je pense que je vais apprendre encore un peu plus.
Mais la vie entre vous au centre ici, comment ça se passe?
Vraiment, ça se passe bien. On se respecte. Le travail aussi se passe bien. Madame nous apprend bien, nous sommes contentes.
Alors, nous sommes arrivés à la ferme des Sœurs de l'Immaculée Conception, située au secteur 6 de Kaya. Et nous sommes dans une écloserie. Ici, on fait la reproduction du poisson pour avoir des alevins. Et une fois qu'on les a, c'est en vente. Voilà. Et ceux qui viennent pour payer apprécient la qualité. Ici, nous avons deux types de poissons, les carpes et les silures. Et nous avons deux techniciens qui nous aident, et en plus de nos filles aussi qui s'intéressent, elles viennent nous aider.
Au-delà de la pisciculture, j'ai vu que vous avez aussi l'agriculture. Qu'est-ce que vous cultivez?
On utilise l'eau du poisson qui est très riche pour faire le jardinage. Et nous, cette année, on a cultivé l'oignon, les deux sortes d'aubergines. Haricots, oseilles, et on a fait de la salade aussi. Voilà.
Et les légumes sont destinés à la vente aussi?
Oui, à la vente et à la consommation de nos filles.
Merci.
Merci.
Dans une famille de griots à Popo du Lasso, Dédé Kora est bien plus qu'un musicien. Il est compositeur inspiré et artisan d'une musique où le traditionnel dialogue avec le contemporain. Ce matin, Music Live tend l'oreille vers les racines et les cordes, celles qui vibrent, celles qui racontent. Bonjour et bienvenue, Dédé Kora.
Bonjour.
Comment vous allez?
Tout va bien, et chez vous?
Bien également, d'accord. Merci. À l'état civil, on vous appelle Daouda Dambélé. Votre nom de scène, c'est Dédé Kora. Vous êtes né dans une famille de griots, vous portez cet héritage. La kora et le ngoni sont des instruments anciens. Mm-hmm. Pourtant, vous les faites vibrer dans un monde moderne. Comment vous faites dialoguer tradition et contemporanéité dans votre musique?
J'ai modernisé un peu. Mm-hmm. Moi, j'ai commencé par l'ngoni. Voilà, l'ngoni, je suis à la kora. Donc, la modernisation, je joue avec des instruments modernes tels que le piano, la guitare, etc.
On dit souvent que les griots sont les gardiens de la mémoire dans votre musique. Quelle histoire avez-vous envie de transmettre à votre génération?
Moi, je suis né d'une famille de griots. Mm-hmm. Voilà.
Donc, vous êtes griot?
On est griot. Même si moi, je ne partais pas envers la musique allait venir forcément envers moi.
Bien sûr, puisque c'est un héritage.
Voilà. Donc, les griots sont là, c'est pour régler les choses, mettre ça au propre, comme je dis. Même si dans une famille où il n'y a pas l'entente, ou entre deux personnes où il n'y a pas l'entente, c'est les griots qui est chargé de les réconcilier, au fait.
Est-ce que dans vos titres, vous songez à partager l'histoire ou le rôle qu'occupent les griots de nos jours?
Dans mon album, j'ai pas eu à parler de ça. Quand je sens, on sent que vraiment c'est le fils d'un griot qui est là en train de chanter, quoi.
Okay.
Parce qu'il y a des messages qui sont d'actualité dedans.
Okay.
Voilà. Mes jeux sont d'actualité. Voilà. C'est pour lancer un message à la jeunesse, bon, déjà au monde tout entier, de bien prendre certaines choses à main pour la situation de certaines choses. Tout ce que je faisais pour toi, ami, tu n'as pas été reconnaissant. Tu as habité. Habité. Ya tu as bétandé. Tu as douillé wati.
Dounia Bété, à l'instant, performance live avec Dédé Kora Daouda Dambélé à l'état civil. Félicitations. Et merci. Dites-nous, qu'est-ce qu'on doit retenir de cette chanson?
En résumé, c'est pour dire de ne pas se narguer ni targuer de son prochain.
Okay.
De ne pas humilier son prochain, quoi.
Vous êtes aussi compositeur et chanteur. Quand vous écrivez vos chansons, vous pensez d'abord au message, à la mélodie ou à l'instrument qui va porter l'émotion?
Moi, je suis auteur-compositeur, comme vous l'aviez bien dit, mais ma courant m'inspire de plus pour les écrits.
Ok, donc vous pensez aux mélodies.
Voilà, j'écris d'abord la mélodie avec les refrains et ensuite améliorer les textes.
Ok.
Voilà pourquoi j'ai été surnommé Dédé Koura. Dédé là, tout simplement, c'est Daouda Dembélé. Amoureux de la Koura.
Ok, Daouda Dembélé, amoureux de la Koura.
Voilà.
Le message que vous souhaitez transmettre à ces jeunes artistes qui pensent devenir comme vous ou qui veulent emprunter vos pas?
Dans toutes choses, il faut d'abord le courage. Moi, personnellement, je suis dans l'autoproduction. Donc, tout métier est difficile, surtout la vie artistique.
Ok.
Quand tu évolues en autoproduction, ça aussi, c'est un autre cas. Donc, mais avec le courage, tout peut s'arranger. On dit doucement mais sûrement quoi. Donc il faut avoir la foi, le courage, voilà, de pouvoir prendre les choses en main.
Ayez la foi, le courage et l'abnégation. C'est le message que Daouda Dembélé à l'état civil et son nom de scène
Dédé Koura
nous laisse entendre ce matin. Nous tirons tout doucement vers la fin de cet entretien. Vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation.
Avec plaisir. Voilà. Merci à vous aussi.
Merci
pour l'invitation.
Chers auditeurs et auditrices, c'est la fin de cette émission. Merci d'être resté avec nous. Et n'oubliez pas, vous pouvez réécouter des extraits de Momo et Nafou, la fille Kibar, utile à tout moment et en tout lieu, sur Viamon en appelant Orange au 3, 2, 1. Yafa chez vous, la paix chez vous. Au revoir et à samedi prochain.